Tuer un homme. To kill a man. Nouvelle de Jack London. Bien que les lampes fussent en veilleuse, elle parcourait d'un œil familier ses immenses chambres et ses larges vestibules, cherchant vainement de pièce en pièce le volume de poésie à demi terminé qu'elle avait égaré et dont elle venait de se souvenir. Elle tourna le commutateur du salon et la lumière électrique révéla une jeune femme en négligé rose tendre, la gorge et les épaules noyées dans un flot de dentelles. Elle n'avait pas retiré ses bagues, et sa chevelure roulait en boule d'or sur sa nuque. D'une beauté fine et délicate, avec un visage ovale, des lèvres pourpres et des joues légèrement rosées, elle avait des yeux changeants comme ceux d'un caméléon, des yeux capables de prendre à volonté un air d'innocence virginale ou des reflets, tantôt durs, gris et froids, tantôt flamboyants et dominateurs. Ayant éteint la lumière, elle sortit de la pièce, traversa l'antichambre et se dirigea vers la salle où chaque matin se réunissait la famille. Elle s'arrêta sur le seuil et prêta l'oreille. De l'autre côté, lui parvenait non un bruit, mais une impression de mouvement. Elle aurait juré n'avoir rien entendu et, cependant, l'atmosphère de calme nocturne avait été troublée. Elle se demanda quel domestique pouvait bien rôder dans la maison à cette heure indue. Ce n'était pas le maître d'hôtel, connu pour aimer se coucher tôt, sauf en des cas exceptionnels, ni la femme de chambre, à qui elle avait donné congé ce soir-là. La porte de la salle à manger était fermée. Elle l'ouvrit et entra. Pourquoi ? Elle n'en savait trop rien. La pièce était plongée dans l'obscurité. Elle chercha à tâtons le bouton du commutateur et l'abaissa. La lumière jaillit. Elle fit un pas en arrière et poussa un cri. Un simple « Oh !» À quelques pas, aplatie contre le mur, elle vit un homme braquant sur elle un revolver. Malgré le choc de la surprise, elle remarqua l'intrus, un individu de taille moyenne, grossièrement vêtu. Il avait l'œil brun et la peau bronzée par le soleil, semblait très maître de lui. Le revolver ne tremblait pas. Il demeurait pointé vers elle, en plein milieu du corps. Au lieu de la viser à bras tendus, l'homme reposait son avant-bras sur sa hanche. « Oh ! » fit-elle. « Excusez-moi, vous m'avez causé une telle frayeur, que voulez-vous ?»« Sortir, » répondit-il, un pli sarcastique aux lèvres. « J'ai, comme qui dirait, perdu mon chemin dans ce sacré labyrinthe, et si vous voulez bien me montrer la porte, je ne demande qu'à déguerpir, sans tambour ni trompette. »« Mais que faites-vous ici ? » demanda-t-elle d'un ton sec en personne habituée à commander. « J'étais venu pour cambrioler, miss, voilà la vérité. Je furetais par ici pour voir ce que je pourrais ramasser. Je vous croyais absente, car je vous ai vu sortir en auto avec un vieux, votre papa sans doute. Je suppose que vous êtes miss Sutcliffe. » Madame Sutcliffe, percevant l'erreur, apprécia le naïf compliment et résolut de ne pas détromper le voleur. « Comment savez-vous que je suis miss Sutcliffe ? » demanda-t-elle. « Dame ! Cette maison est bien celle du vieux Sutcliffe, n'est-ce pas ? » Elle fit un signe approbatif. « Je ne lui connaissais pas de fille, mais j'imagine que c'est à Miss Sutcliffe que j'ai l'honneur de parler. À présent, miss, si ça ne vous dérange pas trop, vous seriez bien aimable de m'indiquer la sortie. » « Et pourquoi donc ? N'êtes-vous pas un voleur, un vulgaire cambrioleur ? » Si j'étais plus vieux dans la partie, riposta-t-il, je ferais la cueillette de ces bagues que vous portez là au doigt, au lieu de me confondre en galanterie. J'étais venu ici pour me requinquer un peu aux frais du vieux Sutcliffe, non pour dépouiller une femme. Laissez-moi passer, je retrouverai bien mon chemin tout seul. La fine Madame Sutcliffe comprit qu'elle avait peu à redouter d'un tel homme. Ce n'était pas un criminel endurci, elle en avait la certitude, ni un citadin. Sa façon de parler évoquait un air plus pur et plus calme que celui des villes, l'air des grands espaces. Elle le sentait, et cela piquait sa curiosité. « Supposez que je crie, que j'appelle au secours. Vous ne tireriez pas sur moi, une femme ?» Elle remarqua de l'embarras dans l'œil brun de l'homme. Il répondit lentement et en cherchant ses mots, comme s'il réfléchissait à la solution d'un problème difficile. « En ce cas, force me serait de vous clore le bec et de vous malmener un brin. »« Quoi ? Une femme ?»« Pas d'autre moyen, » répondit-il, un pli dur au coin des lèvres. « Vous n'êtes qu'une faible femme, j'en conviens, miss, mais je ne peux pourtant pas risquer la prison à cause de vous. »« Non, miss, n'y comptez pas. Un de mes amis m'attend là-bas dans l'ouest, il est dans de fichus draps, et j'ai promis de l'en tirer. » Le pli dur s'accentua. « J'ai idée, tout compte fait, que je pourrais vous faire taire sans trop de dommages. »« Jamais je ne me suis trouvé nez à nez avec un cambrioleur. Vous ne sauriez croire combien cela m'intéresse. » « Je ne suis pas un cambrioleur, miss, pas un vrai du moins, » s'empressa-t-il d'ajouter en voyant l'air sceptique ironiquement peint sur le visage de son interlocutrice. « On ne me croirait pas, bien sûr, à me voir dans cette maison, mais c'est la première fois que je tâte de ce métier-là. J'avais besoin d'argent, il m'en fallait à tout prix, et puis je considère mon acte comme une espèce de reprise individuelle. « Je ne saisis pas, » dit-elle avec un sourire encourageant, « vous venez ici pour voler. » Et voler, c'est prendre ce qui ne vous appartient pas. Oui et non, dans mon cas. À présent, mieux vaut que je m'en aille. Il fit un mouvement vers la porte de la salle à manger, mais la jeune femme lui barra le passage, interposant sa propre personne qui était, ma foi, un charmant obstacle. La main de l'homme se leva, comme pour l'empoigner, mais marqua une hésitation. De toute évidence, le charme féminin opérait sur lui. « Là !» s'exclama-t-elle triomphalement. « Je savais bien que vous n'oseriez pas !» La gêne de l'homme était de plus en plus visible. « Je n'ai jamais porté la main sur une femme, » fit-il en guise d'explication. « Il me coûte de commencer, mais au moindre cri de votre part, je ne réponds plus de moi. »« Voulez-vous rester encore quelques minutes ?» dit-elle aimablement. « Si vous saviez à quel point vous m'intéressez. » « J'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous entendez par cambrioler pour exercer une reprise individuelle. » Il lui jeta un regard admiratif. « Tiens, je croyais que les femmes craignaient les voleurs. Vous êtes certainement une exception. » Elle eut un rire plein de gaieté. « Il y a voleurs et voleurs, n'est-ce pas ? Je n'ai pas peur de vous parce que je suis convaincu que vous ne feriez pas de mal à une femme. Eh bien, bavardons un peu. Personne ne nous dérangera. Je suis toute seule. » « Mon père a pris le train du soir pour New York. Les domestiques dorment tous. Je voudrais bien vous offrir une collation. Les femmes, vous ne l'ignorez pas, préparent toujours des soupers de minuit à l'intention des cambrioleurs éventuels. Du moins, cela se passe ainsi dans les romans des magazines. Mais je ne sais où trouver des aliments. Désirez-vous boire quelque chose ?» Il hésitait, interdit, mais elle lisait dans ses yeux une admiration croissante. « Auriez-vous peur ?» demanda-t-elle. « Je ne vous empoisonnerai pas, je vous le promets. Je boirai même avec vous pour vous montrer qu'il n'y a pas de danger. Oh, »« Vous êtes une vraie boîte à surprises, ma parole » s'exclama-t-il, abaissant pour la première fois son arme. « Qu'on ne me dise plus après cela que les femmes de la ville sont des froussardes. Vous ne l'êtes guère, vous, un petit bout de femme. Vous avez du cran, il n'y a pas d'erreur, et sans méfiance par-dessus le marché. » Je ne connais pas beaucoup de femmes, ni même d'hommes, qui afficheraient autant de crânerie devant un type tenant un revolver au poing. » Elle sourit, flattée du compliment, et la sincérité se reflétait sur son visage lorsqu'elle ajouta « Votre mine m'inspire confiance. Vous paraissez trop honnête pour un voleur. Renoncez à ce petit jeu-là. Si la malchance vous poursuit, cherchez du travail. Allons, débarrassez-vous de ce revolver et examinons ensemble la situation. » « Ce qu'il vous faut, c'est un emploi. »« Je n'en trouverai pas par ici, » fit-il amèrement. « Je me suis usé les guiboles à solliciter de l'ouvrage. Ah, je n'ai pas toujours été comme ça. Si vous aviez vu quel gaillard j'étais avant de courir après du boulot. » Le rire gai dont elle salua ces paroles fit visiblement plaisir à l'homme. Profitant de cet avantage, elle s'écarta de la porte et marcha droit au buffet. « Venez !» « Comptez-moi tout cela pendant que vous boirez un rafraîchissement. Que voulez-vous, du whisky ?»« Oui, miss, » dit-il en la suivant, mais sans lâcher son revolver, et tout en jetant à la dérobée des regards méfiants sur la porte restée grande ouverte. Elle emplit un verre et le lui tendit. « Je vous ai promis de boire avec vous, » dit-elle, avec une certaine hésitation, « mais je n'aime pas le whisky, je préfère le sherry. » Là-dessus, elle souleva la bouteille, comme pour quêter son acquiescement. « Pour sûr, » fit-il en appuyant de la tête, « le whisky est une boisson d'homme, trop forte pour les femmes. Le vin leur convient mieux. » Elle éleva son verre à la hauteur du sien, une lueur sympathique dans les yeux. « À votre santé, puissiez-vous trouver un bon emploi ?» Elle s'interrompit net devant l'expression de surprise et de dégoût de l'homme. Il écarta de ses lèvres, en faisant la grimace, son verre auquel il avait à peine touché. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle avec inquiétude. « Vous n'aimez pas le whisky? Me serais-je trompé ? C'est du drôle de whisky, pour sûr. Il a un goût de brûlé et de fumée. Oh, que je suis donc stupide ! Je vous ai donné de l'écossais, bien entendu, vous êtes habitué à l'eau de vie de seigle. Attendez, attendez, je vais vous verser un autre verre. » Elle témoigna d'une sollicitude presque maternelle en lui changeant son verre. Elle chercha la bonne bouteille, qu'elle finit par trouver. « Eh bien, est-il meilleur celui-ci ? » « Oh oui, miss, il ne sent pas la fumée. Voilà qui réconforte. Je n'ai rien bu de pareil de toute une semaine. Ça coule, c'est un vrai velours. Ce n'est pas fabriqué avec des produits chimiques. » « Avez-vous un faible pour la boisson ? » fit-elle d'un ton mi-interrogateur, mi-défiant. « Non, miss, pour ainsi dire pas. Je lève bien le coude, par-ci, par-là, les jours de bombe, mais pas souvent. Il y a des moments, vous savez, où un bon coup vous remet d'aplomb, comme celui-ci, par exemple. » « Maintenant, miss, en vous remerciant bien de votre amabilité, permettez-moi de vous dire adieu. » Cependant, miss Sutcliffe ne tenait pas à laisser échapper son cambrioleur. Elle était trop femme de tête pour tomber dans le romanesque. Mais la situation actuelle présentait un piquant d'aventure qui la ravissait. D'autre part, elle savait ne courir aucun danger. L'homme, malgré sa forte mâchoire et son air d'assurance, se montrait tout à fait docile et maniable. Et en son esprit, surgissait la pensée d'un auditoire d'amis admiratifs. Quel dommage qu'ils ne pussent la voir en ce moment. « Vous ne m'avez toujours pas encore expliqué, » reprit-elle, « comment, dans votre cas, cambrioler signifie purement et simplement faire de la reprise individuelle. Venez vous asseoir à cette table et comptez-moi cela. » Elle s'arrangea de façon à gagner sa place habituelle et le fit asseoir en face d'elle. Toujours sur ses gardes, l'homme promenait autour de lui un œil furtif, qui se ramenait avec une pointe d'admiration sur ceux de la jeune femme, mais sans s'y attarder longuement. Elle remarqua aussi que, tout en l'écoutant parler, il tendait l'oreille et guettait d'autres bruits que celui de sa voix. Il ne perdait pas non plus de vue son revolver, posé entre deux, sur un coin de la table, la crosse à portée de sa main droite. Il pénétrait dans un nouveau milieu, inconnu de lui. Cet homme du Far West, rompu au mystère de la forêt, aux ruses de l'embuscade, l'oreille et l'œil sans cesse alertés, ignorait que sous la table, contre le pied de son interlocutrice, se trouvait le bouton d'appel d'une sonnerie électrique. Jamais il n'eût soupçonné l'existence d'un dispositif aussi ingénieux. Aussi, de ce côté, toute sa ruse et sa vigilance ne lui servaient de rien. « Voici la vérité, miss, » commença-t-il en réponse à ses sollicitations. « Le vieux Sutcliffe m'a roulé un jour dans une affaire. Le piège était grossier, mais j'ai donné en plein dedans. La malhonnêteté réussit toujours, et de façon légale, quand elle s'appuie sur une centaine de millions. Je ne veux pas geindre ni trop accabler votre papa. Il ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, et ne se doute probablement pas du tort qu'il m'a causé. Il est trop haut placé, il brasse des millions, et je suis trop insignifiant pour qu'il soupçonne même mon existence. » C'est un spéculateur. Toutes sortes de spécialistes pensent, combinent et travaillent pour lui. Certains d'entre eux, m'a-t-on assuré, touchent même des traitements supérieurs à celui du président des États-Unis. Je ne suis qu'un des milliers de pauvres bougres dupés par votre papa, voilà tout. Bref, je possédais une petite mine que j'exploitais avec une méchante machine hydraulique d'un cheval vapeur. Quand la bande Sutcliffe bouleversa l'Idaho et réorganisa le trust des fonderies, lorsqu'elle mit le grappin sur toute la région et établit sa vaste installation hydraulique aux pinces jumeaux, je fus balayé du premier coup et perdis tout mon argent. Voilà pourquoi, ce soir, à bout de ressources et ayant un ami dans le besoin, j'ai fait un tour par ici pour reprendre ce qui me revient de droit. » Supposez que toute cette histoire soit exacte. Rien ne justifie le cambriolage, et vous ne pourriez invoquer cette excuse devant un tribunal. « Oh, je le sais bien, » fit-il humblement. « Ce qui est juste n'est pas toujours légal. Pour cette raison, je me sens mal à l'aise à bavarder ainsi avec vous autour de cette table. Non que je n'apprécie le plaisir de votre société, loin de là. J'y suis très sensible, au contraire. Mais je ne veux pas courir le risque de me faire prendre, voilà. Je sais trop ce que je récolterai dans cette ville-ci. » Pas plus tard que la semaine dernière, un jeune type a ramassé 50 ans de prison pour attaque à main armée dans la rue d'un citoyen qui ne portait sur lui que 2,85 $. J'ai lu son procès dans les journaux. Quand les temps sont durs et que le travail manque, les gens deviennent désespérés. Alors, ceux dont les richesses tentent les pauvres prennent peur et ne ménagent pas les délinquants. Si je suis pincé, il y a des chances que j'attrape 10 ans. Voilà pourquoi je demande à m'en aller. Non, 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 attendez. Elle l'arrêta d'un geste et retira en même temps son pied de dessus le bouton d'appel qu'elle avait pressé par intermittence. « Vous ne m'avez pas encore dit votre nom. » Il hésita. « Appelez-moi Dave. »« Eh bien, Dave, » fit-elle avec un petit rire aimable, « je veux faire quelque chose pour vous. Vous êtes jeune et sur le point de vous engager dans une mauvaise voie. Si vous commencez par prendre ce que vous estimez être votre dû, plus tard vous vous approprierez ce que vous saurez fort bien ne pas vous appartenir. » Et vous n'ignorez certainement pas où conduit cette aventure. Nous allons, au lieu de cela, vous trouver un honnête emploi. « Il me faut de l'argent, et tout de suite, » répliqua-t-il d'un air têtu. « Pas pour moi, mais pour cet ami dont je viens de vous parler. Il traverse une fichue passe, et c'est maintenant ou jamais le moment de l'en tirer. » « Je puis vous procurer une situation, » reprit-elle promptement. « Et oui, c'est cela même. Je vous prêterai l'argent pour votre ami, et vous me le rembourserez petit à petit sur votre salaire. » « 300 $ suffiraient, » dit-il lentement. « 300 le sauveraient. Je m'userais, s'il le faut, les mains au travail pendant un an. Pour moi, je ne demande que mon entretien et quelques sous pour m'acheter des cigarettes. »«
Ah, vous fumez? Tiens, oui, je n'y avais pas songé. »
Là-dessus, sa main s'allongea au-dessus du revolver, et son index désigna les marques jaunes de nicotine que l'homme portait au bout des doigts. En même temps, elle mesura de l'œil la distance qui séparait de l'arme la main de Dave et la sienne propre. Elle fut tentée de s'en emparer d'un mouvement brusque. Elle se croyait sûre de réussir son coup. Mais une hésitation la retint, et elle retira sa main. «
Voulez-vous fumer ?» lui demanda-t-elle.
« J'en meurs d'envie. »«
Alors ne vous gênez pas. J'aime l'odeur du tabac de cigarette, j'entends. »
L'homme plongea sa main gauche dans la poche de sa veste, en tira quelques feuilles de papier à cigarette, en transféra une à sa main droite près du revolver, puis replongeant dans sa poche, il ramena une pincée de gros tabac brun qu'il déposa sur la feuille, et les deux mains au-dessus de son arme, il se mit à rouler une cigarette.
« À la façon dont vous couvez de l'œil ce revolver, on dirait que vous avez peur de moi, » lui lança-t-elle ironiquement.
« Pas exactement, miss, mais, étant donné les circonstances, je me sens un peu timide.
Pourtant, je n'ai pas eu peur de vous, moi.
Vous n'avez rien à perdre.
Ah, si, ma vie, riposta-t-elle.
C'est vrai, se hâta-t-il d'admettre. Et malgré tout, vous n'avez pas eu la frousse. Mon inquiétude est peut-être exagérée, après tout.
Je m'en voudrais de vous faire le moindre mal, dit-elle.
Tout en parlant de sa mule, elle chercha le bouton et pressa dessus. En même temps, une flamme de candeur et de sincérité éclairait son regard.
« Vous savez juger les hommes et les femmes, je vois cela. Il n'est pas possible qu'au moment où j'essaye de vous détourner d'une existence criminelle et vous offre un travail honnête... »
Tout contrit, il l'interrompit. « Je vous demande pardon, miss. Ma méfiance n'est guère aimable, en effet. » Là-dessus, après avoir allumé sa cigarette, il éloigna sa main de la table et la laissa retomber à son côté.
« Merci de votre confiance, » lui souffla-t-elle doucement.
Elle s'abstint résolument de regarder le revolver et pressa de plus belle le bouton de la sonnette sous son pied. « À propos de ces 300 $, reprit-il, « je pourrais les envoyer là-bas par mandat télégraphique, et je m'engagerai à travailler pendant un an pour leur remboursement et mon entretien. Vous gagnerez davantage, je vous promets au moins $75 par mois. Vous y entendez-vous en chevaux ?
Les traits de l'homme s'éclairèrent et son regard s'alluma.
Eh bien, vous travaillerez pour moi, ou pour mon père plutôt, mais c'est moi qui engage tous les domestiques. J'ai besoin d'un second cocher.
Est-ce qu'il me faudra revêtir une livrée ? Interrompit-il avec le sourire méprisant de l'homme du Far West, c'est-à-dire de l'homme né avec la liberté dans le sang, pour la servitude ?
Elle sourit d'un air indulgent.
« Évidemment, cela ne vous convient pas. Ah, voyons, que je réfléchisse.
Ah oui, pourriez-vous dresser et soigner des poneys ?»
Il fit un signe affirmatif.
« Nous avons une ferme d'élevage où nous pourrions employer un homme comme vous. Cela vous plairait-il ?»«
Si ça me plairait, miss, à qui le dites-vous ? »
Sa voix vibrait de gratitude et d'enthousiasme.
« Envoyez-moi à votre ferme et je m'y déniche de la besogne dès demain. Je vous fais cette promesse, miss. » Jamais vous ne regretterez d'avoir tendu la main à Huggy Luke quand il se trouvait dans l'embarras.
« Ne m'avez-vous pas dit que vous vous appeliez Dave ? » fit-elle d'un ton de reproche.
« C'est vrai, miss, c'est vrai. Et je vous en demande pardon, c'était une blague. Huggy Luke est mon vrai nom, et si vous voulez me donner l'adresse de votre ferme et le prix du billet, je prends demain matin le premier train. »
Pendant toute cette conversation, la femme n'avait cessé d'appuyer du pied sur le bouton de la sonnette afin de donner l'alarme. 3 appels courts et un long, 2 courts et un long, puis 5. Elle avait essayé de longues séries de sons courts et, à un moment donné, avait tenu le bouton à baisser 3 bonnes minutes durant. Elle était partagée entre une sourde irritation contre son stupide maître d'hôtel au sommeil de plomb et le doute croissant que la sonnette fût en bon état.
« À la bonne heure, je suis heureuse que vous acceptiez, dit-elle. Nous nous entendrons ensuite sur les conditions.
Attendez-moi, tout d'abord je monte là-haut chercher ma bourse. »
Elle vit une lueur de doute flotter momentanément dans les yeux de l'homme et s'empressa d'ajouter
« Ne vous fais-je pas confiance, moi, pour $300 ?»«
Je vous crois, miss, dit-il galamment, mais pardonnez ma nervosité. Vous comprenez, c'est plus fort que moi. »
« Alors, je monte ?»
Mais avant qu'elle reçût son acquiescement, un léger grincement lui parvint à l'oreille. Cette vibration à peine perceptible, qu'elle n'eût pas entendue si elle n'avait pas tendu l'oreille dans cette direction, provenait, elle le savait, de la porte ballante de l'office. Mais l'homme, lui aussi, avait entendu. Et malgré tout son sang-froid, il sursauta. « Qu'est-ce cela ? » demanda-t-il. En guise de réponse, la jeune femme allongea la main gauche sur le revolver et le ramena vers elle. Son geste avait surpris l'homme, car presque au même instant, la main de celui-ci s'abattit sur la table et se referma dans le vide, à l'endroit d'où venait de disparaître le revolver.
« Asseyez-vous » ordonna-t-elle d'un ton sec, qu'il ne lui reconnaissait pas. Il lui avait donné une leçon dont elle profitait. Au lieu de le viser à bras tendus, elle avait posé son avant-bras sur la table, le revolver braqué non sur la tête, mais sur la poitrine de l'homme. Celui-ci, qui la regardait froidement, tout en obéissant à ses ordres, comprit qu'il n'y avait aucun salut pour lui, à moins que le recul de la détente ne fît manquer le coup si elle tirait. Il vit aussi que ni le revolver ni la main qui le tenait ne tremblaient, et il n'ignorait pas le genre de blessure que laisseraient ses balles à pointe molle. Il ne quittait pas des yeux le chien qui s'était levé contre la gâchette sous la pression de l'index de la femme.
« Je tiens à vous avertir que la détente est extrêmement sensible. N'appuyez pas trop fort, sans quoi vous allez me faire dans la peau un trou de la grosseur d'une noix. »
Elle détendit le chien qui s'abaissa en partie.
« Cela vaut mieux ainsi, » fit-il en guise de commentaire. « Je vous conseillerais même de l'abaisser tout à fait. Vous voyez comme il fonctionne aisément. Si vous voulez l'essayer, un léger coup de doigt le fera remonter et redescendre. Alors je plains votre beau parquet. Cela fera du propre. »
Il entendit une porte s'ouvrir derrière lui et quelqu'un pénétrer dans la pièce. Mais il ne tourna pas la tête. Il ne détachait pas le regard de celle qui lui faisait face. C'était une autre femme, d'une beauté toujours éblouissante, mais froide, impitoyable. Les yeux, comme le visage, étaient durs et reflétaient une lueur glaciale.
« Thomas !» ordonna-t-elle à son domestique. « Téléphonez à la police ! Pourquoi avez-vous mis tant de temps à répondre ?
Je suis descendu dès que j'ai entendu la sonnette, madame. »
Le voleur n'avait pas détourné ses yeux de ceux de la femme. À la mention de la sonnette, il vit un éclair de doute passer dans ses prunelles.
« Ne vaudrait-il pas mieux, madame, que je me munisse d'une arme et que j'éveille les domestiques ?»«
Non, téléphonez à la police. Je peux tenir moi-même cet homme en respect. Allez, et faites vite !»
Le maître d'hôtel s'éloigna. Demeuré seul, l'homme et la femme, toujours assis, se regardèrent dans le blanc des yeux. Pour elle, c'était une aventure dont elle savourait par anticipation tout le plaisir qu'elle en tirerait. Elle se représentait déjà le bruit que cette affaire provoquerait dans son cercle d'amis et les articles de la presse mondaine décrivant tout au long comment la belle Madame Sutcliffe avait seule arrêté et livré à la police un voleur armé. Cette nouvelle, à coup sûr, ferait sensation.
« Quand vous serez sous les verrous, dit-elle posément, vous aurez tout loisir de méditer sur la folie de voler le bien d'autrui et de menacer une femme d'un revolver. Maintenant, répondez-moi franchement, cette histoire d'amis dans le besoin n'était qu'un mensonge, n'est-ce pas ?»
L'homme ne répondit rien. Quoique son regard fût toujours rivé sur elle, il la considérait maintenant d'un œil vide. Un voile l'interceptait à ses yeux. Il entrevoyait tout là-bas les vastes espaces ensoleillés du Far West, les immenses solitudes dont les habitants, hommes et femmes, étaient plus nobles que ces fantoches des maudites, trois fois maudites, villes de l'Est.
« Eh bien, vous êtes muet à présent ? Vous ne me demandez plus de vous lâcher ?»«
Je pourrais, répondit-il en passant sa langue sur ses lèvres sèches. Je pourrais implorer ma liberté si... »
« Si quoi ? » interrompit-elle d'un ton péremptoire.
« Je cherchais un mot et vous venez de me le rappeler. Comme je le disais donc, je réclamerais volontiers ma liberté si j'avais affaire à une femme ayant le moindre sens moral. »
Elle avait pâli.
« Prenez garde à vos paroles !» s'écria-t-elle d'un ton menaçant.
« Bah, vous n'oserez pas me tuer. Il faut que le monde soit bien bas pour laisser une créature comme vous s'y pavaner à son aise. » Mais il n'est pas encore assez vil pour vous permettre impunément de me trouer la peau. Vous êtes une mauvaise femme, mais trop lâche dans votre perversité même. Tuer un homme, ce n'est pas grand-chose, mais vous n'en avez pas le cran. Voilà où le bas vous blesse.
« Prenez garde à vos paroles, répéta-t-elle. Sinon, sachez-le, votre insolence vous coûtera cher. Selon votre attitude actuelle, vous vous en tirerez avec plus ou moins de prison, songez-y bien. » Il feignit de ne pas avoir entendu et poursuivit.
Je me demande ce que fabrique la Providence là-haut. À quoi pensait-elle en vous lâchant ainsi dans mes jambes? Pourquoi cela me dépasse? Pourquoi joue-t-elle d'aussi sales tours à la pauvre humanité? À la place du bon Dieu, moi.
L'apparition du maître d'hôtel interrompit cette harangue.
Le téléphone doit être détraqué, madame, annonça-t-il. Un court-circuit, un fil cassé ou quelque chose de ce genre, car je ne peux obtenir le central.
Appelez un des domestiques, lui ordonna-t-elle. Envoyez-le chercher un agent et revenez aussitôt ici.
L'homme et la femme se retrouvèrent en tête à tête.
Me permettrez-vous une question, madame ? Dit l'homme.
Ce larbin a parlé d'une sonnette. Je vous épiais comme un chat, je suis sûr que vous n'avez pas sonné. Me serais-je trompé ?
« La sonnette est sous la table, pauvre niais. J'ai appuyé dessus avec mon pied. »«
Merci, madame. À présent, je sais à quoi m'en tenir sur les gens de votre espèce. Je vous parlais franc et me fiais entièrement à vous. Pendant ce temps, vous me mentiez de façon éhontée. »
Elle eut un rire moqueur.
« Continuez. Dites ce qu'il vous plaira. Vous m'intéressez. »
Ainsi, tirant parti des avantages réservés à votre sexe, vous feigniez d'apparaître à mes yeux l'image même de la bonté, alors que votre pied ne cessait de presser le bouton électrique sous la table. Eh bien, je vous le dis franchement, et ce sera ma dernière consolation, j'aime mieux être le pauvre Huggy Luke et faire 10 ans de prison que d'être dans votre peau, madame. L'enfer regorge de femmes comme vous. »
Il y eut un moment de silence. L'homme, qui ne la quittait pas des yeux, venait de prendre son parti.
« Continuez, insista-t-elle, je vous écoute, parlez. »
« Eh bien, madame, il me reste quelques mots à vous dire. Savez-vous ce que je vais faire ? Je vais me lever et sortir par cette porte.
Je vous arracherai bien cette arme des mains, mais vous pourriez vous affoler et faire partir la détente. Gardez donc mon revolver, il est excellent. Comme je viens de le dire, je vais sortir tout droit par cette porte. Et vous ne tirerez pas. Il faut du cran pour tuer un homme, et ce cran-là vous manque. Allons, êtes-vous prête? Voyons un peu si vous oserez appuyer sur la détente. Je ne vous ferai aucun mal, je veux simplement franchir cette porte. »
Les yeux toujours fixés sur elle, il repoussa sa chaise et se mit lentement debout. La femme releva le chien à moitié.
« Pressez plus fort, lui conseilla-t-il. Il n'est qu'à demi levé. Continuez et tuez-moi, j'ai bien dit tuez-moi. Répandez ma cervelle sur votre parquet ou trouez-moi la poitrine, c'est cela, tuez votre homme. »
Le chien du revolver s'abaissa, par petites secousses, mais tout doucement. L'homme tourna le dos et marcha à pas lents vers la porte. Elle maintint son revolver braqué sur lui. À deux reprises, le chien se releva à moitié de sa course et s'abaissa comme à regret. Parvenu sur le seuil, et au moment de le franchir, l'homme fit demi-tour. Un pli de dédain contractait sa lèvre. D'une voix basse, presque traînante, il articula un mot, rien qu'un mot, mais une basse injure chargée de toute la quintessence du mépris et du dégoût. Puis, tranquillement, il sortit.